Yes, Jésus, je te suivrai. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Vous allez bien? Les enfants, ils peuvent... Oui, effectivement. Ça va, les jeunes? Yes, je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent en bas. Il y a toute une équipe de moniteurs, monitrices. Vous pouvez les rejoindre. Ah, je suis vraiment content de vous revoir aujourd'hui. J'ai vraiment un bon message ce matin sur David et Goliath. OK. Deuxième partie, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet et les réseaux. Bienvenue à vous pour cette deuxième partie de cette thématique, la place de la femme dans l'Église du 21e siècle. La semaine passée, nous avons vu la femme dans le Jardin d'Éden et aujourd'hui, nous allons regarder la femme dans les lettres de Paul. Alors, j'aimerais vous dire d'entrée de jeu, c'est un méga défi aujourd'hui pour moi. Parce que littéralement, ce n'est pas une expression, littéralement, j'ai littéralement 5 prédications à condenser dans une, dans mes notes. Donc, je vais tout faire pour vraiment clôturer aujourd'hui. Et si vraiment on n'arrive pas, ben on reprendra une prochaine fois, ce qui ne serait pas un idéal pour moi en tout cas. Mais en même temps, je ne veux pas non plus embêter l'Église avec toujours le même sujet. surtout que c'est un sujet qui est pas facile. Il y a des séries que je fais plus longues qui sont moins conséquentes. Mais bref, donc priez pour que je puisse. Si vous trouvez que je parle vite en général, vous avez rien vu là. Non, on va tâcher de faire de notre mieux. Qu'on puisse se rappeler quand même. La semaine passée, c'est un message qui relativement était difficile de pas être en accord avec ce qui a été dit à quelque chose près. Ce matin, c'est un petit peu plus, c'est quand même assez différent. Et pour cette raison, j'aimerais vraiment encore une fois nous rappeler, c'est le seul rappel que je vais faire par rapport à la semaine passée. Rappelons-nous qu'il y a des théologiens qui, sur ce sujet en particulier aujourd'hui, n'arrivent pas à se mettre en accord. Donc ça nous permet de rester dans l'humilité. Et rappelons-nous que c'est tout à fait possible, normal et non malsain de ne pas être en accord, surtout. Il y a certainement des choses que je vais vous communiquer qui ne correspondent pas à vos perceptions du sujet. Et puis c'est correct, c'est bon. On peut être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, mais ça n'affecte en rien notre relation fraternelle, notre amour mutuel. Donc simplement, je voulais rappeler ces faits-là. Je vais mentionner des choses qui vont peut-être, certains d'entre vous vont aller vous retrouver, soit par Internet, soit ici ce matin, aujourd'hui. Vous allez vous sentir peut-être visé. J'aimerais vous dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que je fais simplement, c'est je veux simplement me contenter de présenter ma perception du sujet, qui en même temps est ma position, c'est la mienne, elle est partageable, on peut être pour, contre. Mon point est le suivant, c'est que je ne vise personne personnellement. Et je saisis l'occasion pour mentionner que c'est l'une des premières choses qu'on nous enseigne, la plateforme de la prédication n'est pas un endroit à se servir pour cibler des gens. Si j'ai quelque chose à te dire, j'ai pas besoin d'une plateforme et d'un lutrin pour pouvoir te le dire. Je t'appelle, on prend un café, on discute, puis on se parle, comme des adultes. Ça va? Donc, j'ai rien, il n'y a pas de message subliminal dans tout ce que je vais communiquer. Sinon, que ma foi, il faut que je présente un peu le sujet de la question. On rentre. On va prendre un gros respire. Et puis, ce qu'on va faire, il y a au moins 4 grosses parties dans ce message-là. Alors, ce qu'on va faire éventuellement, possiblement, on va entre deux pour s'aérer le cerveau, on va se lever, on va faire un tour sur soi pour revenir. Parce que je sais que la capacité d'attention d'un être humain se joue entre une vingtaine de minutes. Donc, je suis conscient que quand ça dure plus que ça, c'est... Voilà. Alors, nous avons vu la semaine passée... voilà. OK. 27 mots... Sur ces 27 mots, on en a touché seulement 8. J'aurais pu rajouter 2-3 mots que j'ai pas remis, mais qu'on va toucher ce matin. Il nous en reste 19. Ça, c'est juste un petit peu pour réaliser un peu l'ampleur du sujet que l'on a. Et rentrons directement dans le sujet. 11h20. 25. Ah non, 20. C'est bon. Et c'est parti. Yes. Vous êtes prêts? Vous avez pris un café? C'est bon. Alors, prochaine diapo. La femme dans les lettres de Paul. On continue. OK, juste mentionner ceci d'entrée de jeu. Sur 6 références bibliques qui font allusion à la femme, en parlant du silence, de la soumission, etc., sur 6 références, 5 références sur 6 font clairement allusion au couple. Clairement. C'est une des raisons pour laquelle je crois au rôle de l'autorité de l'homme dans son foyer, mais non pas à un autoritarisme envers la gente féminine. Donc sur ces six références-là, en nommant celle de la semaine passée, la Genèse, à chaque fois, c'est clair et net et explicite qu'il s'agit d'un couple et non d'une femme isolée dans un coin. 1 Timothée 2, on pourrait penser que oui, ça concerne des femmes, mais ce n'est pas explicitement mentionné que ça concerne des femmes mariées. Donc ça, c'était juste pour la petite note, mais en même temps, ça va être intéressant pour 1 Timothée 2. 1 Corinthiens 11, première partie, ça c'est la grosse section, la prochaine grosse section comme celle-ci, on se lève, on fait un tour sur soi et on réfléchit. On ne réfléchit pas, on continue, parce que bon, je pense que vous avez un dîner qui vous attend aussi. 1 Corinthiens 11 fait partie des textes les plus difficiles à interpréter pour toutes sortes de raisons. Cela provient du fait qu'ils sont historiquement, culturellement, spirituellement et théologiquement chargés. Vraiment chargés. Il y a question d'Adam, de Ève, de tenue vestimentaire, d'ange, de rôle pratique, etc. Et c'est ce que nous allons regarder. Nous allons regarder trois choses dans cette section-là. Nous allons parler du voile, regarder le voile demandé. Donc, on va regarder l'usage culturel, le voile décodé. Qu'est-ce qui est à comprendre derrière le voile qui est mentionné dans notre texte? Et le voile déchiré, quel est le message actuel pour nous? Et c'est parti pour 1 Corinthiens 11. On lit quelques références à partir du verset 4. Volontairement, je laisse le verset 3 de côté, on y reviendra dans quelques instants. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. » Ok, la demande du voile ou l'expression du voile par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas inventé ça dans son imagination. Il ne s'est pas réveillé un matin et il s'est dit « ça serait bien que les femmes chrétiennes aient mariées, aient un voile sur la tête ». Il y a un arrière-plan à ça. Juste pour qu'on puisse réaliser, il y a dans plusieurs civilisations, plusieurs années, et encore aujourd'hui jusqu'à un certain point, mais la chevelure de la femme avait une connotation charnelle et érotique. Elle avait, pour certaines, dans certaines cultures, la chevelure était une exhibition, était vue comme une exhibition indécente de leur intimité sexuelle. C'est comme ça que c'était perçu. Pour certains, la chevelure renfermait un pouvoir d'attraction et de séduction. Et pour les Romains voyaient littéralement une concentration des forces sexuelles féminines dans la chevelure. C'est important de le savoir. Il y a quelque chose qui est fort. Alors c'est sûr que, même encore aujourd'hui, on va être franc les gars, on se parle entre mecs, on va dire qu'on est dans une petite avance sur frères d'armes, même si ça ne sera pas le sujet de frères d'armes. Quand tu as une femme qui passe qui passe à la rue versus une blonde avec les cheveux longs versus une femme qui a les cheveux rasés, il y a de plus grandes chances que tu te retournes lorsqu'il y a une femme qui a les cheveux longs et blonds. Tu vas te retourner aussi pour la femme qui est rasée, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est des réalités. Et à l'époque, c'était vraiment chargé, cette notion-là. La notion de la chevelure. Lors de la libération française, la Deuxième Guerre mondiale, les Françaises qui avaient eu des relations avec les Allemands ont subi le supplice du crâne rasé. Donc il y a quelque chose qui est là, qui est chargé. Maintenant, on remonte beaucoup plus loin. Ça, c'est la portion historique. La première mention scripturaire qui est faite à propos d'une femme à la tête voilée remonte, écoutez bien ceci, à 2300 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. 2300 ans avant Jésus-Christ. C'est un grand prêtre du Dieu de la Lune qui a commencé qui a composé un hymne qui s'intitule l'exaltation d'Inanna. Et Inanna, c'était une déesse, la déesse Ishtar, ou selon les langues, Astarté faisait allusion aussi à Astarté, Aphrodite, était associée à l'astre Vénus. C'était la déesse de la fertilité, de l'amour et de la guerre. Et il a composé un hymne en l'honneur de cette, en l'hommage de cette déesse. Et ce qui est intéressant, cette déesse était nommée Hiérodule d'An. Si vous allez dans le dictionnaire, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, alors je me suis instruit un peu plus, je me suis couché un peu plus intelligent, on dit, ce jour-là, lorsque j'ai préparé ça. Je ne savais pas ce que c'était une Hiérodule. Eh bien, une Hiérodule, c'est une prostituée sacrée. C'est une prostituée qui appartient à une divinité. Et on l'appelait la Hiérodule d'An, donc prostituée sacrée, et An était le plus ancien des dieux sumériens. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez déjà vu, la diapo est là, c'est que si vous allez voir sur, vous faites la déesse, machin, le nom, etc., et vous allez voir qu'elle est représentée avec un voile. C'est la première mention. Le premier document légal concernant les hiérodules, donc les prostituées sacrées, remonte au code d'Hammurabi, combien d'années? 1750 ans avant Jésus-Christ. C'est quoi le code d'Hammurabi? Le code d'Hammurabi, c'est un texte juridique babylonien. C'est le plus complet des codes de loi en Mésopotamie. C'était le plus complet. Et là, il y a un document légal qui a été sorti à propos des prostituées sacrées. 1000 ans avant Jésus-Christ, on continue. Le roi assyrien, Tiglath-Phalazar Ier, voilà, je ne le connaissais pas, lui, il va rédiger une loi qui va réglementer le port du voile dans ces termes, les termes que vous avez devant vous. Les femmes mariées qui sortent dans la rue n'auront pas leur tête découverte. La prostituée ne sera pas voilée, sa tête sera découverte. Qui voit une prostituée voilée l'arrêtera. Les femmes esclaves ne sont pas voilées. Et qui voit une esclave voilée l'arrêtera. Ça, c'est 1000 ans avant Jésus. Quelques étapes du voile. 3. La femme non voilée dans la culture assyrienne, pour les Grecs, pour les Assyriens, les Grecs, les Romains et les Juifs, voulait dire trois choses. Soit qu'elle est disponible, donc elle est libre, pour être fréquentée, soit qu'elle est esclave ou soit qu'elle est prostituée. La femme qui ne portait pas de voile dans ces cultures-là c'est le message qui était lancé. T'es esclave, prostituée ou simplement disponible. Au IIIe siècle, c'est sous Tertullien. Tertullien, un des pères de l'Église, va étendre le voile, non maintenant sur les femmes mariées qui appartiennent à un mari, mais aux jeunes filles non mariées ou célibataires. Il va écrire un traité intitulé « Du voile chez les vierges ». Il faut savoir que Tertullien ne voyait pas la gente féminine d'une façon très, très positive. Pour lui, c'était une créature dangereuse dont il fallait se méfier. On est au IIIe siècle après Jésus-Christ ici. Et voici ce qu'il va dire. Il va étendre le voile jusqu'aux filles célibataires. S'exposer, en disant que s'exposer revient à se prostituer, donc s'exposer, tête découverte. Il ajoute, femme, déjà là, femme, on comprend qu'on n'est pas en 2020, là, en 2019. Femme, tu devrais toujours porter le deuil, être couvert de haillons et abîmé dans la pénitence, afin de racheter la faute d'avoir perdu le genre humain. Oh, toutes les femmes. OK. Au Moyen-Âge, troisième étape du voile, au Moyen-Âge, alors que le voile jusqu'ici est une façon d'exprimer sa modestie, sa décence, son appartenance, au Moyen-Âge, le voile va devenir un objet de mode et un moyen d'attirer les regards. Il n'est plus un symbole de soumission, mais de richesse, d'élégance, qui montre aussi à quel genre de famille tu appartiens, le pouvoir familial. Alors, à la lumière de ces reliefs historico-culturels, les propos de Paul prennent tout un autre relief. Quand on lit le prochain... Maintenant qu'on lit, si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Il n'a pas inventé ça de lui-même. En fait, ce qu'il faut saisir ici, c'est que l'apôtre est confronté à une double réalité, et puis on le réalise peu souvent. L'apôtre est confronté à une double réalité, celle d'une tradition acquise depuis des millénaires, et celle d'un mouvement récent et révolutionnaire. L'apôtre Paul, là, il est vraiment mal pris. Il est pris avec un héritage traditionnaliste acquis depuis des milliers d'années, et celui d'un mouvement tout récent et révolutionnaire comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'est ce mouvement qui a été provoqué par le message de Jésus-Christ qui libère. Un message libérateur. Galates, qu'on va lire, qui est souvent amené pour confirmer que bon, on n'a pas besoin de porter le voile, on est tous égaux devant Dieu. En fait, Galates ici, ça c'est un texte qui se rapporte beaucoup au niveau du fait de pouvoir accéder au salut. Quand Jésus, tu n'as plus besoin d'avoir un statut social, d'avoir un certain niveau. Et ça dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation. Mais j'aimerais que nous puissions le lire ce matin, non pas comme en le regardant comme un argument pour dire qu'on est tous égaux. Lisez-le maintenant à la lumière de ce que je viens de vous dire, de ce mouvement révolutionnaire récent versus la tradition. Ça, en fait, ça décrit l'atmosphère dans laquelle l'apôtre Paul se trouve. C'est juste fou. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. La bonne nouvelle que Jésus amène vient affranchir les êtres humains en les plaçant tous sur le même pied d'égalité, c'est certain. Il n'y a plus que, peu importe ton passeport, juif ou non, ton statut, esclave ou libre, ton genre, homme ou femme. Et là, Christ amène une révolution dans l'entendement des gens. Alors qu'on est dans une société qui est très cloisonnée. Toi, tu es juif, tu restes là. Toi, t'es pas juif, là-bas. Toi, tu es un homme. Tout le monde est séparé. Et Jésus, dans son message, il arrive et dit non, c'est fini. Et Paul, il est pris avec ça. Il est pris entre sa tradition héritée depuis des millénaires, puis un mouvement révolutionnaire, puis lui, c'est comme, ok, c'est comme si Jésus dit, maintenant débrouille-toi avec ça, vas-y mon bonhomme. Wow! Et des fois, on ne le réalise pas. Ce texte est quand même puissant parce que ça nous rappelle que ceux qui sont revêtus, non pas d'un voile, mais de Christ, sont libres. Libres. Il dit, vous êtes revêtus de Christ. Et ceux qui ont revêtu Christ aussi, on signifie notre soumission. En étant soumis à Christ, on démontre notre appartenance. On appartient à Christ. La problématique, ce n'est pas tellement une question de domination de l'homme sur la femme, mais beaucoup plus une attitude déshonorante de la part de la femme envers l'homme. La problématique de ce sujet-là, elle est beaucoup plus centrée là-dessus. D'ailleurs, on le voit, on est toujours dans notre chapitre 1 Corinthiens 11, la prochaine diapo, verset 5. « Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, déshonore son chef. » On n'est pas dans une perspective de domination de l'homme sur la femme, mais d'une attitude qui déshonore son mari. Et c'est là le problème. En résumé, rapidement, par rapport au voile, historiquement, c'est un héritage de l'Antiquité, l'Antiquité païenne. Sexuellement, c'est un moyen de protéger les regards des hommes. Culturellement, c'est une marque d'appartenance. Socialement, ça devient une convention sociale de bonne manière. Symboliquement, c'est un signe de soumission, d'engagement, de fidélité. Puis on pourrait rajouter politico-religieusement un instrument de contrôle et d'asservissement de la femme, puisque Tertullien, par la suite, et bien d'autres vont se servir de cet élément-là pour garder la femme dans un asservissement inacceptable. À présent, on va regarder le voile décodé. C'est quoi le témoignage spirituel? Puis il faut comprendre, là, c'est un code. En fait, il y a quatre façons de communiquer. Il y a la parole, il y a l'écrit, il y a le non-verbal et il y a la tenue vestimentaire. Quelle façon de communiquer? Et le voile, dans ce cas-là, de façon très précise, il y a un code qui est lancé, il y a un message. Verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. » C'est possible que je prenne des raccourcis ce matin pour pouvoir aller plus vite. « Christ est le chef de tout homme. » De tout homme. Est-ce que ça voudrait dire des hommes genre masculins? Non, de tout homme. Chef de tout homme, pas seulement des hommes. Puis que les hommes ensuite sont chefs des femmes. Non, Christ est le chef de tout homme. Ce qu'il prouve, c'est Éphésiens 1, verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds, après avoir dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Jésus a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Son corps, c'est vous et moi. C'est les jeunes et les vieux, c'est les blancs, les noirs, c'est les hommes, les femmes. C'est tout le monde. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est le chef de tout homme dans ce sens-là. Maintenant, l'homme, le texte se poursuit en disant « L'homme est chef de la femme. » OK, chef de la femme, il y a deux termes en grec pour le mot « chef ». Si le terme avait été en grec « arché » ou « arché » que vous avez devant vous, qui veut dire « commencement, principe, cause », eh bien, ça aurait pu sous-entendre que l'homme est à l'origine, créateur, à l'origine de la femme, et ça aurait fait de nous, les hommes masculins, un être supérieur. Mais on l'a vu la semaine passée, on dormait profondément. On n'a aucune part à prendre là-dedans. On n'a aucune origine à la naissance, à la venue de la femme sur terre. Et le terme en grec, c'est « chef », ici, c'est « képhalé », qui veut dire « dirigeant », autorité, protecteur. L'homme est le chef de la femme. C'est un dirigeant, il y a une autorité, c'est un protecteur. Quelqu'un a écrit, c'est pas à l'écran, le rôle de la tête par rapport, c'est Hérodote qui a écrit ça, considéré comme un des premiers historiens, père de l'histoire. Le rôle de la tête par rapport au corps est décrit comme offrant un abri au corps et non comme exerçant une autorité sur lui. La tête est source de protection. Hein, les jeunes, c'est bon d'avoir un casque quand on fait du vélo. Ouais, je vois quelqu'un ici, je ne l'aimerais pas, mais vous le connaissez comme moi. Là, ce n'est pas un message subliminal, c'est ciblé, puis ça, c'est la famille, celle de qui je parle. faire du vélo. Heureusement que tu avais ton casque, parce que qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la tête, tu as besoin de protéger ta tête. Elle est source de vie. Donc, le mari a ce rôle de chef, de protecteur, etc., de nourrir. Dieu, chef de Christ. Oh, ça pose un problème. Dieu, chef de Christ, parce que si on pousse le raisonnement de ce texte biblique-là, alors ça voudrait dire qu'il y a une valeur hiérarchique. Si on pousse ce raisonnement en termes de valeur hiérarchique et de supériorité, alors ça remettrait en question la doctrine de la Trinité. Parce que la doctrine de la Trinité, très clairement, mentionne très clairement qu'il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas un qui est subordonné à l'autre. Alors pourquoi il dit « Dieu est chef de Christ » ? Alors quelqu'un pourrait dire « Oui, mais Jésus était soumis en toutes choses. » Oui, et nous allons le voir plus loin, c'est vrai. Jésus était soumis en toutes choses. Mais ici, on n'est pas avant l'ascension. C'est vrai, c'est récent en plus l'ascension. On est après, on est dans les épîtres. Jésus est monté. Les actes ont eu lieu, les lettres ont commencé à s'écrire, on vient de le lire, Christ, c'est le Christ glorifié assis à la droite du Père. On n'est plus dans le Jésus soumis volontairement au Père, on est dans le Christ glorifié assis à la droite du Père, voilà. Donc, pourquoi tout d'un coup Dieu chef de Christ? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Et en fait, tout simplement, ce texte-là, il n'est pas écrit dans un esprit de subordination. Hein, Dieu chef, Christ chef, homme chef. Ici, ce qu'il faut saisir, c'est qu'il y a une attitude, il y a une notion. C'est pas dans un esprit de subordination, mais dans une attitude d'interdépendance. L'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Autrement dit, l'homme et la femme, ce que je fais a des répercussions sur mon épouse et ce que ma femme fait a des répercussions sur moi. Il y a une interdépendance. Et en tant que couple, ma façon de fonctionner, il y a une interdépendance sur ce que Jésus-Christ a instauré. Donc, il y a quelque chose qui est directement relié. C'est ça, en fait, qu'il faut... en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Encore une fois, vous êtes libre d'adhérer, accepter, y croire, pas y croire, contester. Je vous présente comment je vois la situation. Et de cette interdépendance va découler honneur ou déshonneur et que ça va rejaillir en fonction de notre comportement en tant que couple, va rejaillir plus loin. On continue. 1 Corinthiens 11. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête. On va passer rapidement ici. On va passer au... Parce qu'il dit l'homme est l'image, c'est l'image de la gloire de Dieu. Encore une fois, est-ce que Paul est en train de dire que l'homme est vraiment la gloire de Dieu, puis la femme, non, on l'a vu ce matin, la semaine passée. Dieu créa l'homme, l'humanité, à son image, homme et femme, à son image. On est là pour le glorifier. Donc, c'est pas là. Là, encore une fois, c'est une dimension d'interdépendance qu'il y a. Et j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin à un texte qui nous interpelle ici, ce qui est la marque d'autorité. Là, on peut descendre les diapos, je vais juste être certain qu'on arrive sur la bonne. Voilà, donc il était question ici d'honneur et de témoignage plutôt que de domination et d'avantage. Vu qu'à partir du moment où ma femme ne porte pas le voile, c'est ma femme, les gens reçoivent le message, oh, c'est soit une prostituée ou soit elle appartient à personne ou elle est disponible, et ça rejaillit sur moi. Et cette attitude-là, en fait, va rejaillir sur le témoignage que j'offre, qui est donné auprès de Dieu. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un principe de soumission que même Paul nous appelle à respecter. Le principe de se soumettre à des règles même établies dans la société. Et lorsque on ne respecte pas ces règles-là, comme brûler un feu rouge alors qu'on ne devrait pas, eh bien, il y a des conséquences collatérales. Et le Seigneur nous appelle à être un bon témoignage. Même va dire, soumettez-vous. Même ce texte, dans d'autres textes, va dire, soumettez-vous à vos maîtres, dans une culture où l'esclavage était très présent. Et en fait, soyez un bon témoignage là où est-ce que vous êtes. OK, je ne suis pas pour l'esclavage, mais c'est là-dedans que vous avez grandi. Mais moi, ce que je veux, je suis venu changer des cœurs. Je suis venu changer des cœurs, puisque je vous appelle en tant qu'Église, en tant que mes enfants, c'est que vous ayez un bon comportement par rapport aux lois, et aux autorités qui sont établies, évidemment, jusqu'à temps que ça ne nous amène pas à devoir renier notre salut ou renier notre Dieu. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on parle vraiment d'un aspect d'honneur et de témoignage plutôt que de domination. 1 Corinthiens 11, verset 10, à celui-là que je voulais qu'on arrive. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Ah, il fait chaud, hein, il y a déjà les fenêtres ouvertes. Alors, avant d'aller voir les anges, on va s'arrêter à la marque d'autorité. Autorité. Exousia. Exousia qui veut dire droit, pouvoir, liberté d'agir, permission. Droit, pouvoir, liberté d'agir, permission. Il y a plusieurs. L'autorité, là, c'est quelque chose de large. Spirituellement, nous puisons, homme ou femme, notre autorité dans le principe de la soumission à Christ. On l'a vu il y a quelques semaines, qui n'avait rien à voir avec ce message. Spirituellement, alors que nous sommes soumis au Christ, eh bien, nous bénéficions, son autorité peut agir à travers nous. C'était Adam dans le jardin qui ne s'est pas soumis, il est sorti du parapluie, il y a un principe de soumission. Ça, c'est spirituellement. Il y a aussi un aspect d'autorité, je fais une petite parenthèse aussi pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'ensemble. Liberté d'agir, permission. Il y a aussi une source d'autorité qui est d'ordre spirituel, rattachée à la soumission, mais il y a aussi une source d'autorité qui est reliée à la formation. On va voir plus tard les femmes par rapport à leur instruction. Très simplement, lorsque tu n'as pas ton permis, tu n'as pas l'autorité de conduire, tu n'as pas la permission. Tu ne peux pas conduire, tu n'as pas la permission, tu n'as pas l'autorité reconnue pour pouvoir conduire ta voiture. Si tu es massothérapeute ou n'importe quel autre domaine professionnel, tant que tu n'es pas détenteur de ton diplôme, tu n'as pas la liberté d'exercer, tu n'as pas la liberté d'agir, tu n'as pas cette autorité-là. Et aujourd'hui, on parle de contexte, et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs années. Un des aspects, sociologiquement, il y a plusieurs choses qui ont changé. Et une des choses qui ont changé, c'est qu'aujourd'hui, tu es reconnu en fonction de ta formation. On reconnaît quelqu'un en fonction de ses compétences, en fonction de la formation. Il y a une autorité qui est là. Alors, quand on parle d'autorité, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et non exclusivement une dimension spirituelle. On revient à notre texte, une marque d'autorité. Droit, pouvoir, liberté d'agir. Alors, je me suis permis de paraphraser le texte pour qu'on puisse voir. En fait, Paul est en train de dire ceci. Ça, c'est moi qui ai écrit, ce n'est pas la Bible. Paul est en train de dire ceci, à mon sens. Vous avez le droit et le pouvoir de vous exprimer en prière ou en prophétie, hein, parce qu'ils n'empêchent pas, ils portent le voile quand ils prient, ils prophétisent. Donc, ils peuvent s'exprimer. Mais compte tenu du cadre culturel et des conventions de notre société, vous n'avez pas la permission et donc pas la liberté d'agir si vous ne vous revêtez pas de ce voile. Sans cette marque ou ce signe, vous ne serez ni écouté ni respecté car vous vous comportez de façon scandaleuse, faisant honte à votre époux. Vous vous discréditez auprès de votre entourage et n'êtes pas un bon témoignage devant le monde invisible.